Salut à tous, je suis Edouard, je suis journaliste au service culture de BFM, pardon, je t'ai coupé Louise. Je remplace Hugo aujourd'hui qui animait le live jusqu'à aujourd'hui parce que Hugo il a pris une journée off et il a bien raison, il se repose un petit peu, en plus il y a du soleil donc il a raison d'en profiter. Aujourd'hui on a du très lourd à vous présenter pour cette journée cannoise. Alors on va d'abord parler d'une sélection parallèle qui s'appelle la Queer Palm, qui porte bien son nom, qui présente des films qui représentent la communauté LGBT. QIA+. Ça, c'est bon, je l'ai. On va en parler avec Louise qui est juste à côté de moi. On va aussi parler de Leonardo DiCaprio qui a monté les marches hier pour le film avec Martin Scorsese et qu'on a pu rencontrer aujourd'hui. Et puis, c'est Claire qui l'a rencontré. Et puis, comme Claire, elle a décidé de passer une journée un petit peu compliquée, on l'a aussi envoyé rencontrer Jude Law pour un film qui va être présenté ce soir. La Queer Palm. On voulait en parler aujourd'hui. C'est un prix qui a été créé il y a 10 ans, qui donc récompense des films sur la communauté homosexuelle, des films qui sont dans toutes les sélections à Cannes. Il y a un jury qui est composé et qui est dirigé cette année par John Cameron Mitchell. Je confonds toujours, si c'est ça, hein, ouais, John Cameron Mitchell, qui est le réalisateur de Short Bus, qu'on adore. Et dans ce jury, il y a toi, Louise. Ça va ?
Je vais très bien. Ouais, je suis ravie.
On est pas mal là. On est bien installé.
C'est bien, puis le fond est très joli.
Alors Louise, toi on a pu te voir dans un film de Louis Garrel qui s'appelle L'amant d'un jour, qui était magnifique.
Philippe, c'est le
père. Philippe, pardon, excuse-moi, je me suis trompé. On t'a vu aussi dans Benedetta de Paul Verhoeven, qui a été présenté ici à Cannes. Comment ça s'est passé toi? C'est Franck, le créateur, c'est ça de la Queer Palm qui est venu te chercher. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire partie de ce jury?
J'avais fait un premier jury à Lyon, à Écran Mixte, qui est un festival qui existe depuis quelques années, qui est un festival queer aussi, et qui lançait sa compétition. Et vraiment, je m'étais régalée de voir des films réunis par un certain regard, des thématiques en commun, et tous les films se répondaient. Et à ce moment-là, j'ai rencontré Franck, qui était membre du jury aussi, qui m'a proposé. Et moi, je me suis dit, mais passer 2 semaines à voir des films queer en bonne compagnie, j'ai plus que dire oui. Donc, je suis vraiment ravie.
Là, on est d'accord. Tu as vu combien de films là, jusqu'à présent?
Alors j'ai un peu triché parce que comme je suis curieuse et gourmande, j'en ai vu d'autres que de la sélection de la Queer Palm.
C'est normal, c'est fait pour ça aussi.
C'est pour ça, mais j'ai dû en voir une dizaine je pense.
Okay. Il y en a un qui t'a touché particulièrement et si oui, pour quelle raison, raconte-nous.
Et là tu me cueilles à la sortie de Anatomie d'une chute de Justine Triet que je viens de voir et qui est un bijou d'intelligence, de délicatesse dans l'écriture, l'interprétation, mais remarquable. Vraiment je suis secouée et c'est tout le cinéma que j'aime, quoi, qui est vraiment... dans l'en-deçà, voilà, toute la place qu'on laisse au spectateur, comment ça se déplie sur la durée avec une image magnifique. Enfin, vraiment, j'aimais beaucoup cette réalisatrice et là, je l'aime encore plus. Je suis vraiment admirative.
Je me posais la question par rapport à un jury d'autres sélections. Est-ce que toi, faisant partie du jury de la Queer Palm, justement, est-ce que Franck vous demande de faire particulièrement attention à comment est représentée la communauté LGBTQIA+, dans ce genre de film? Et c'est comme ça que vous devez faire un choix ou pas du tout? Il vous dit que c'est vraiment le film dans sa globalité qui doit être jugé.
Alors, il nous a dit une chose assez jolie avant de commencer. Il nous a dit on ne va pas donner des bons points pour des films à sujet, pour des gens qui défendent bien des thématiques. On vient défendre du cinéma, donc on vient défendre des œuvres. Alors, c'est sûr que pour la Queer Palm, il y a des très très beaux films où il y a juste une lesbienne en arrière-plan dans le flou qui embrasse quelqu'un. Bon, là, c'est sûr que ça n'a pas beaucoup de sens de donner un prix pour la Queer Palm. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais film du tout. Mais donc oui, on est sensible aux deux, mais c'est avant tout... la qualité cinématographique qu'on va saluer. Et puis c'est pas tant la communauté en soi, c'est plus des thématiques qui se déclinent et ça peut être des choses très 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 subtiles. Ça peut être par exemple un rapport un petit peu ambigu entre 2 jeunes enfants. En fait c'est toutes les dramaturgies qui sortent de ce qu'on pourrait appeler d'être dans un regard hétérocentré où les garçons sont avec les filles, etc. Et là c'est tout ce qui sort un petit peu de la norme et c'est génial parce que c'est extrêmement inventif, comme il y a peu de référents. Il y a peu de poids sur nos épaules, donc il y a un regard assez vif et neuf, et c'est une joie. Ouais.
C'est ce que j'allais te demander, parce que finalement, la Queer Palm, elle a 10 ans, elle est assez récente. C'est hyper important que des communautés soient mises en avant. On parle de la communauté LGBTQIA+, ouais. Mais il y a d'autres communautés dont on parle aussi beaucoup, qui sont parfois sous-représentées dans le cinéma. Tu trouves quand même que ça évolue, toi, dans ton regard d'actrice et de spectatrice, est-ce que tu trouves que ça évolue dans les scénarios, peut-être, ou dans les films que tu peux voir?
C'est une bonne question. Est-ce que ça évolue? Alors moi, après, je ne travaille pas depuis très longtemps, je travaille depuis un peu moins de 10 ans. Mais en tout cas, dans les propositions qu'on me fait, je vois de plus en plus de scénarios queer, on va dire, d'autres histoires, d'autres manières de représenter les femmes. Je trouve que ça change beaucoup aussi sur le regard qu'on a sur les femmes. Mais après, la queer palm, c'est absolument essentiel pour moi à un moment de aussi mettre en lumière qu'il y a peu de films qui racontent ces histoires-là. Parce que c'est des films qui sont durs à financer, parce qu'il y a peu de gens qui les racontent, il y a peu de gens qui les protègent. Et donc je crois que créer un prix comme ça, c'est aussi pour mettre en lumière qu'il y a d'autres manières de raconter l'amour, les rapports, le genre. Et je trouve ça absolument essentiel.
Il y a aussi, il y a d'autres avis hein, aussi, qui, enfin, des gens qui ont des avis un peu divergents. Je pense notamment à Xavier Dolan qui, lui, trouve que avoir un prix spécialement pour cette communauté, pour telle ou telle communauté, c'est pas forcément une bonne chose parce que on va peut-être un peu les mettre à part ou en tout cas les différencier des autres films. Qu'est-ce que tu penses de ça justement? Est-ce que c'est bien de faire un focus, une lumière là-dessus ou au contraire il faudrait se dire bah non, il ne faut pas les différencier des autres?
Alors ce qui est chouette avec la queer palm, c'est qu'on ne les différencie pas vu qu'ils sont dans d'autres sélections. Donc ils ont été sélectionnés par le festival, pas parce qu'ils étaient queer, c'est parce que c'était des œuvres qu'on voulait saluer. Et là où moi je trouve ça vraiment très très important de mettre en lumière, c'est qu'on n'est pas dans un monde égal, il y a encore énormément d'injustices. C'est comme la parité homme-femme, bah, vivement le jour, on a plus besoin d'y penser. Pour l'instant, on a vraiment besoin d'y penser. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas 30% de femmes encore au festival en compétition. Derrière, c'était, je crois, 18. Enfin, y a, là-dessus, sur la représentation des femmes, il y a du travail. Et encore plus sur la représentation queer. Et dans l'ensemble, on doit mettre en lumière les minorités parce que ce sont des minorités et qu'en fait, elles peuvent pas se défendre toutes seules. Donc oui, vivement le jour, on a plus besoin de le faire. Ça veut dire qu'on sera dans un monde égal.
Ça fait du bien d'entendre dire aussi. Comment ça se passe entre les membres du jury? Ça va?
Ah c'est un délice. De toute façon, moi, je recommande à tout le monde de traîner avec des gens queer. C'est des gens qui sont en dehors du jugement, en dehors des a priori, qui sont des gens assez libres, qui ont beaucoup d'insolence, d'insoumission et un regard électrisant. Alors moi, je me régale. Puis John Cameron Mitchell, qui nous a dit le premier jour, « L'État, c'est moi. Je suis votre président. » a beaucoup d'humour et me réjouit.
T'es quel genre, toi, de jury, tu prends des notes après chaque film, t'es hyper sérieuse, au contraire tu laisses le film un peu infuser, comment tu travailles?
Bah, je suis un vrai cancre, c'est-à-dire que je lis rien avant d'y aller.
Je fous rien.
Non vraiment, mais c'est pas du tout parce que j'ai envie de rien faire, c'est que j'ai envie d'être surprise et de pas savoir à quoi m'attendre. Et donc du coup là il y avait des réalisateurs que je connaissais, d'autres pas, des fois certains qui me déroutaient, d'autres non, voilà. Donc je prends pas de notes, j'ai envie un peu de me fier à ma mémoire et de voir comment ça se dépose en moi. Et à la fin de ces deux semaines, je verrai ce qui a laissé une empreinte. Et pour l'instant, les choses qui m'ont impacté le premier jour continuent à graver leur sillon. Donc je vais me fier à cet instinct-là.
Voilà. Est-ce que j'ai le droit de te demander déjà si tu as un petit coup de cœur pour un film en particulier?
Oui, il y a plusieurs films qui m'ont beaucoup, beaucoup touchée, notamment le film de Kore-eda, Monster, qui m'a... d'ailleurs, qui nous a... on est restés les cinq assis dans la salle vide après, on était bouleversés. Moi, c'est un film où je me suis dit... en fait... Il faut pas que j'en dise trop, parce que je suis une très très mauvaise raconteuse de films, je divulgage très très vite. Alors je vais rien dire d'autre que c'est un film qui m'a bougé et qui a déplacé mon regard. Et je crois que c'est aussi ce que j'aime quand je vois des films. Mais celui-là aussi, Anatomie d'une chute, je trouve que c'est remettre l'intelligence et la sensation au cœur du propos des films. Et... Ah non, moi je... Franchement, j'aime tellement le cinéma et là, ça me le rappelle. Je suis heureuse, vraiment, je suis heureuse.
C'est génial pour ça, Ken, parce qu'on a quand même des émotions ici en regardant des films qu'on n'a pas forcément ailleurs. Surtout que c'est des films qui sont présentés pour la première fois, etc. On les vit, je trouve, de plein fouet, quoi.
Alors, il y a aussi une chose, c'est qu'on les voit en salle. Et là, on a beaucoup parlé des salles de cinéma avec les plateformes et tout ça. Et en fait, là, pour moi, c'est implacable. C'est-à-dire qu'une communauté de personnes, de spectateurs qui se laissent traverser par un même objet en même temps, au même endroit, avec pas la possibilité de sortir, d'être sur son téléphone ou quoi. Et puis surtout des visages, c'est idiot ce que je vais dire, mais qui sont plus grands que nous. C'est-à-dire que moi, sur un écran où voilà, c'est juste une autre personne, là, vraiment, quand je suis face à un écran de cinéma, pour moi, c'est l'altérité pure, c'est l'autre qui se place comme exemple. Et là, du coup, il y a une catharsis possible, du coup, il y a des transferts possibles. Et là, il y a de l'art possible. Donc il faut absolument que tous, les spectateurs, les institutions, les réalisateurs, on défende les salles. Parce que ça nous hisse.
Il faut qu'on défende la queer palm aussi, du coup. Il te reste une semaine de boulot. Ouais. Merci beaucoup, Louise. On a hâte de savoir un peu. Ouais. Et puis à très bientôt, du
à
coup.
Très bientôt.
Merci. On va passer au deuxième sujet de la journée. C'est donc cette interview de Leonardo DiCaprio, Claire Fleury, qui me rejoint actuellement. a pu rencontrer le grand acteur hollywoodien. Claire, elle a un sourire jusqu'aux oreilles. C'est assez mignon à voir. Ça va, tu t'en es remis un petit peu
ça? Écoute, ça va, c'était il y a 2 heures, donc j'ai pu laisser tout retomber.
Alors, on va juste redire pourquoi Leonardo DiCaprio était sur la croisette, même si on en a déjà beaucoup parlé. Il est venu présenter Killers of the Flower Moon, le nouveau film de Martin Scorsese, avec Robert De Niro. C'est le 6e film, je crois, de Leonardo DiCaprio avec Martin Scorsese. Avant qu'on parle de cette interview, tu peux nous raconter un petit peu les coulisses, comment ça s'est passé?
Les coulisses de l'interview, tu
les
veux dire?
Les coulisses de l'interview, pas du film, j'imagine que tu n'étais pas sur le tournage.
Non, je pensais que tu voulais. Peut-être que je te donne mon sentiment sur le film. Bref, les coulisses de cette interview, c'est un gros retard. C'est-à-dire que j'ai été convoquée à 15h. J'étais lâchement abandonnée alors qu'on était en train de manger. Et tout simplement, on est arrivé. Et toute l'équipe était en retard parce qu'en fait, ils ont été très attendus aujourd'hui. Il y avait la conférence de presse. La conférence de presse, trop de questions. Résultat, pof, une demi-heure de retard. Après, ils sont sortis du palais. Ils n'ont pas arrêté de signer des autographes, de prendre des photos. Donc, on était tous là dans l'hôtel qui est juste à côté.
Au Majestic, là, juste à côté.
Exactement, le Majestic.
Petit hôtel très simple.
Oui, voilà, donc on était une dizaine de journalistes assis par terre à attendre que Léo et toute l'équipe arrivent et donc aller avec une heure de retard, enfin le Messie est arrivé.
Alors attends, pour ceux qui ne savent pas, tiens rapproche-toi un peu de moi parce que comme ça on sera mieux à l'écran. On a un petit peu de promiscuité comme ça c'est bien, ça fait du bien. On se connaît un petit peu. Oula, c'est bizarre dit comme ça, les gens vont se faire des idées. Pour les gens qui ne connaissent pas, on appelle ça un press junket. On est d'accord que là c'était comme d'habitude, tu arrives dans la pièce, tu as l'artiste assis en face de toi, un minuteur derrière.
Alors là, je n'avais pas de minuteur cette fois-ci, j'avais une dame qui me faisait des grands signes. Donc, trois pour. Voilà, 3 minutes. 2 pour 2 minutes. Et puis, elle s'est mise à faire des gros moulinets comme ça pour me dire, en gros, arrête, c'est fini, t'as plus de temps. Voilà.
Et il est comment, Leonardo DiCaprio, quand tu l'as devant toi?
Alors, tu me connais, je suis rarement impressionnée par les acteurs parce que ça fait partie.
Genre, Claire, elle a vu tout le monde, elle est plus impressionnée même par Leonardo DiCaprio.
Non, justement, c'est ce que j'allais dire. Voilà, enfin, c'est notre boulot, donc en fait, on en voit quand même. Plein, pas quotidiennement, mais on en voit souvent. Mais par contre, lui, j'avoue, entre son petit sourire en coin, son regard bleu perçant, il est quand même très, très impressionnant, quoi. Honnêtement.
Hier, il a donc présenté le film. Il a monté les marches avec Robert De Niro, Martin Scorsese. Moi, j'étais sur les marches. C'était une super belle montée des marches. Franchement, il fallait y être. C'était génial. On va écouter comment lui, il a vécu ce moment. Tu lui as posé la question tout à l'heure. On écoute ce qu'il nous a dit.
I think that, you know, this has been 7-8 years in the making. And to have so many people from the Osage community there in support of the film meant a lot to us. I know Marty spent months, a year there listening to the stories, trying to incorporate the truth as best he possibly could, and to feel their support and to have an audience like at Cannes, which is, you know, the best place to showcase a story like this. And have the Osage people embrace that and know that, you know, the world is going to be paying attention to what happened to them, and to have Mr. Scorsese being at the helm of this film, it's and also getting to work not only with Lily but Mr. De Niro after 30 years and Marty together, I was just taking snapshots of the whole evening, trying to remember and be in the moment the best I could, because I know something like this may never happen again.
Voilà, donc pour lui, ça a été hyper émouvant, cette montée des marches. Pourtant, il en a vu d'autres, mais là, vraiment, on sentait que ça l'avait vachement ému. C'est comme ça que tu l'as ressenti aussi en étant devant lui. Quand il te répondait, il était vraiment intense, quoi.
Oui, et puis on sent en fait que ce film compte vraiment pour lui. Il y a déjà sa collaboration de longue date avec Martin Scorsese. Tu l'as dit, 6 films ensemble. Et puis Leonardo DiCaprio, il ne fait pas tant d'interviews que ça. Et là, vraiment, il avait tout l'après-midi à faire que des interviews parce que Martin Scorsese, il a 81 ans. Robert De Niro, il en a 80. Donc voilà, ils ont un petit peu passé l'âge de faire des promotions à tout va pour leur film.
Ils ne faisaient rien du tout, eux, comme presse ?
Très peu. Moi, d'après mes informations, Martin Scorsese faisait quelques interviews presse écrites et Robert De Niro avait a priori accepté un entretien filmé. Donc voilà, et donc c'est Leonardo qui est venu sur le devant de la scène pour vraiment défendre au maximum le film, j'ai envie de dire, de son ami Martin Scorsese.
Alors justement, jusqu'à hier, tu pouvais pas nous en parler du film, il y avait ce qu'on appelle un embargo, donc c'était vraiment interdiction de dire ce que tu en avais pensé. Aujourd'hui, tu peux nous en parler. Comment c'est alors ce nouveau Scorsese ?
J'ai envie de faire un gros warning chef-d'œuvre, c'est-à-dire que c'est incroyable. Parce que voilà, Martin Scorsese, il a 81 ans, il nous fait encore des leçons de mise en scène, il nous surprend, il se réinvente. C'est un film qui est bourré de plans séquences, d'images qui te marquent. Il y a toujours les thèmes qui sont chers à Scorsese, son interrogation sur où est le bien, où est le mal. Il se sert magnifiquement du visage quand même assez angélique de Leonardo DiCaprio pour nous dire attention, le mal, il rôde autour de toi, il est partout. Et voilà, et puis il interroge aussi l'histoire américaine. Alors, il l'a beaucoup interrogé avec ses précédents films, notamment pour la communauté italo-américaine. Et là, c'est un hommage aux Amérindiens qui sont quand même les oubliés de l'histoire de ce grand pays. Donc voilà, c'est un film fort, c'est un film qui est très émouvant aussi à la fin, c'est un film qui est très drôle. On a vraiment l'impression que c'est son troisième film, qu'il est au début de sa carrière et qu'il ne se repose jamais. C'est ça qui est impressionnant.
3h30, c'est 3h30, c'est ça, c'est pas trop long quand même ?
Honnêtement non, parce que voilà, il a une maestria derrière la caméra. Moi, le premier quart d'heure, je regardais le film, je me prenais la tête et je me disais mais comment il fait ça ? J'avais un peu la jouissance qu'on pouvait avoir ado quand on voyait des films qui nous emballaient. Et c'est rare en fait d'avoir des films qui te remettent dans cette posture de jeune spectateur. La dernière fois que j'ai ressenti ça, c'était je crois Parasite de Bong Joon-ho. Donc tu vois, c'est une fois tous les trois ans.
Palme d'or et Oscar aussi d'ailleurs. Parasite, donc ça s'annonce bien pour
Scorsese. Si on en croit que la fleurie. En tout cas, j'espère et je pense que ça va plaire à beaucoup de gens. Et ce qui est génial, c'est que c'est un film à la base Apple Plus. Et en fait, ils ont fait un accord avec la Paramount et il va sortir en salle chez nous. Ça sera le 18 octobre. Et vraiment, je dis aux gens d'ores et déjà de noter la date sur un calendrier. Enfin, faut vraiment pas le louper. Scorsese, on peut se dire, c'est un classique, c'est un vieux réalisateur, c'est vu, revu. Non, là, franchement, moi, il m'a surpris. J'ai eu l'impression de le redécouvrir.
On l'a dit, sixième collaboration avec Martin Scorsese. Ils ont fait Les Infiltrés ensemble, ils ont fait Gangs of New York qui était incroyable.
C'était leur rencontre en fait, leur rencontre de cinéma.
C'était leur premier film ensemble, exactement. Tu lui as posé la question de savoir qu'est-ce que ça lui faisait de retrouver Martin Scorsese, de retravailler avec lui. On écoute ce qu'il t'a répondu.
That's the main thing, besides his humility and his ability to listen to actors, and really listen, not... There's some directors out there that pretend to listen, but he really incorporates, when you feel something, and it has to come from a feeling, some sort of instinct in you, he stops everything and he's willing to change the entire narrative of a film or take it in a completely different direction. He has this connection when he trusts an actor to go anywhere, and that's what you feel when you watch his movies. He gives it over to the performances, and that's what makes him a master filmmaker.
Voilà, donc même Leonardo DiCaprio valide le fait que Martin Scorsese est l'un des plus grands réalisateurs de cinéma aujourd'hui et de l'histoire du cinéma, on va dire. Et tu voulais rajouter quelque chose sur ce qui...
Oui, alors déjà, tu vois, avec Léo, on a quand même un point commun. On a les mêmes goûts, hein, mine de rien, puisqu'il valide le fait que Martin Scorsese soit toujours l'un des plus grands réalisateurs en exercice. Non, ce que je voulais dire, c'est que... il y a une... en fait, je ne suis pas complètement retombée de cette interview, je crois. Il y a vraiment une relation qui est très forte entre les deux, parce qu'on n'arrête pas de dire, voilà, Martin Scorsese a dirigé Leonardo DiCaprio à 6 reprises. Mais surtout, Leonardo DiCaprio a aidé au financement de certains des films de Martin Scorsese. Et sur celui-là, en fait, c'est l'adaptation d'un livre et c'est Leonardo DiCaprio qui a acheté et payé les droits du livre, qui les a repayés pour que Martin Scorsese ait le temps de travailler le scénario.
Ouais, c'est une vraie collaboration entre les deux, en fait. Il y a un vrai échange autour de l'amour du cinéma, quoi.
Complètement. Et en fait, Leonardo DiCaprio aide Martin Scorsese à trouver les financements parce que, mine de rien, Hollywood, c'est un peu dur. Les réalisateurs, il y a un peu du jeunisme à tout va. Et c'est Léo qui a aidé au financement de pas mal des derniers films de Scorsese.
Bon, Claire, tu viens de nous dire que tu avais un point commun avec Leonardo DiCaprio. Tu viens de nous dire aussi que tu étais fortement perturbée par cette interview. On s'est donc dit qu'effectivement, il fallait que tu galères un peu plus aujourd'hui. On t'a envoyé rencontrer Jude Law, ma pauvre. C'est vraiment dur pour toi.
Je sens une pointe de jalousie.
Non, pas du tout. Jude Law, donc, qui... Est-ce qu'on rappelle qui est Jude Law, qui joue dans Dumbledore, dans Les Animaux Fantastiques, Closer, qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autre?
Le talentueux Monsieur Ripley.
L'intelligence artificielle, voilà, le Spielberg. Ouais. Bah, bon, Jude Law, Sherlock Holmes aussi quand même. Ah bah, pas oui. Mal, ouais, pas mal. Jude Law monte les marches. Il monte les marches ce soir pour un film qui s'appelle Firebrand, qui est un film...
Le jeu de la reine en français.
Le jeu de la reine,
t'as
raison, on a un titre français, il faut quand même le dire, qui est un film d'un Brésilien, Karim Aïnouz. Il partage l'affiche avec Alicia Vikander, pour ceux qui la connaissent, c'est elle qui a interprété Lara Croft dans le dernier Tomb Raider. C'est terrible de citer que ça de Alicia Vikander, mais bon, c'est le rôle le plus populaire, donc c'est pour ça que je cite. Tu me regardes avec des yeux hyper sévères.
Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout.
Donc, c'est un film historique qui raconte l'histoire de Catherine Parr, la dernière femme d'Henri VIII. Henri VIII qui était roi d'Angleterre, qui avait quand même des problèmes de couple, parce qu'il a quand même eu 6 femmes, dont 2 qu'il a quand même zigouillées. Le mec n'arrive pas à gérer la pression.
Non, il aimait bien soit trucider ses femmes, soit celles qui arrivaient à survivre. Et ben, en fait, il les répudiait, donc elles se retrouvaient enfermées dans un château quelconque, si possible au nord du royaume, histoire qu'elles prennent bien froid et qu'elles ne survivent pas très longtemps. Donc voilà, c'était pas forcément un type très très sympathique. Et elle... Elle lui a survécu.
Ouais. Bon, c'était même carrément une ordure, on peut se le dire. On a demandé, tu lui as demandé justement à Jude Law ce que ça faisait d'interpréter une ordure au cinéma. On va écouter ce qu'il nous répond.
It's not nice behaving like that. And there were certain moments I was aware that what we were creating was a really toxic environment. But you know, we also had humor. Alicia was very good at breaking the toxicity by being funny and letting everyone know that she was okay and things were all right. But it's also, you know, that those are the extremists of art. You know, we were there to tell a story and to make it real. We had to be and go into those dark places because it should be shocking and it should be upsetting in order for her triumph to be authentic and for people to recognize that these scenarios are, you know, not to be tolerated. Well, the fun part is making the films. The fun part is the work. That's why I do it. Being in Cannes is another fun part because it feels like you're in a community of filmmakers, and pretty much everyone here is here to celebrate filmmaking, which is wonderful. And it's easier to talk about a film you believe in and you love, which I do with this one. There are sometimes ones I've done where I don't quite feel like that, but it's easy to talk about a film like this because there's...
Donc voilà, donc Jude Law qui interprète Henri VIII. Toi, t'as vu le film ce matin? Tu peux nous en dire un peu? Tu peux nous donner un peu ton avis ou pas?
Mais non, embargo critique.
J'aurais essayé.
J'ai l'impression de dire ça à chaque fois. Hugo, tente, c'est pas possible. Non, embargo critique. Par contre, je pense en dire un peu plus quand même sur le personnage interprété par Jude Law, parce que c'est Henri VIII. On a dit c'est un gars pas très sympathique. Et en plus, là, en fait, c'est la fin de vie d'Henri VIII. Donc, Jude Law, il se trimballe avec une jambe putréfiée. Enfin,
il est vraiment défiguré dans le film.
Physiquement, oui, il est un peu moins attrayant que le jeune homme que j'ai vu ce matin, hein, je ne vais pas te mentir. Voilà, et c'est ça qui est hyper intéressant parce qu'en fait, le film joue du contraste entre l'image qu'on peut avoir de l'acteur qui est plutôt bien de sa personne et l'image que nous renvoie le film et à quel point, justement, le temps et le pouvoir peuvent te défigurer un homme.
J'ai l'impression qu'il est un peu dans ces rôles-là en ce moment-là. Je ne sais pas si tu as vu le dernier film qui est sur Disney+, l'adaptation de Wendy et Peter Pan, où il joue le Capitaine Crochet. Il aime bien un peu se transformer. Il s'éloigne un peu de son image de jeune premier parfait, je trouve.
Bah, je ne vais pas être très gentille, mais passé un certain âge, tu sais, il faut t'ouvrir à d'autres rôles.
C'est dur, mais c'est vrai.
Bah oui, pardon.
Et comment il est quand tu le rencontres, Jude Law? Sympa?
Alors écoute, c'est un anglais et généralement, en fait, honnêtement, les interviews avec les acteurs anglais, enfin, t'en fais aussi. Voilà, il y a une forme de décontraction, ils sont un petit peu moins dans le système hollywoodien. Donc là, écoute, je suis arrivée, je vais te raconter ça fait un peu la nana qui se la pète, j'hésite, mais je suis arrivée.
Je te le dirai si tu te la pètes.
Il me regarde de façon très insistante et bizarrement. Donc,
il t'a dragué?
Non, absolument pas. Et donc je me dis, mince, j'ai peut-être mon décolleté qui s'est ouvert, tu vois. Et en fait, c'était...
Qu'est-ce que tu vas me raconter ?
Non, mais en fait, il a fait sans doute mine de me reconnaître et de me dire « Ah, oh, on s'est déjà vu une fois. » Voilà, c'est...
Ah,
non, mais je pense qu'il ne m'a pas reconnu. Mais tu vois, il y a le petit truc pour essayer de te mettre à l'aise, en fait.
Ok, bon, Jude Law, sympa. Alicia Vikander, sympa aussi.
Ouais, ouais, ouais. Plus sur la réserve. Ça, c'est, tu vois, c'est le côté Europe du Nord.
Pays nordique, quoi. Donc, bah, voilà, bah, on peut pas en dire plus sur ce film. C'est très frustrant, mais en tout cas, on va le découvrir ce soir. Ils vont faire une belle montée des marches.
On peut quand même dire que voilà, c'est certes un film historique, mais c'est un film historique qui est filmé avec beaucoup de modernité et avec voilà, presque un côté thriller.
Ouais. Demain, nouvelle journée, ici, sur la Croisette. Et quelle journée ! Ça va être hyper glam demain. Voici, c'est glam quand même. Présentation de The Idol, la série HBO, hein, c'est ça si je ne me trompe pas. La série qui a été créée, co-créée par The Weeknd, le chanteur The Weeknd, avec... Dans le rôle titre, Lily Rose Depp, la fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis. C'est hyper attendu demain cette série.
Bah, c'est hyper attendu parce qu'en plus, à la réalisation, aux manettes, Sam Levinson, le créateur de la série Euphoria, qui est juste, voilà, je pense, l'une des séries les plus hype et les plus primées de ces dernières années. Donc voilà, The Weeknd. Alors, par contre, je me pose la question, est-ce qu'on a encore le droit de l'appeler The Weeknd puisqu'il est en train de...
Exact, il a changé de nom.
Ouais, ouais. Et puis j'ai reçu là les convocations pour les entretiens, il n'y a pas marqué The Weeknd. Donc,
tu penses qu'il va nous faire un petit happening sur le tapis rouge demain ou pas ?
J'aimerais tellement. Et puis il y a une soirée.
Qui avait déjà chanté sur le tapis rouge ? C'était pas Elton John ?
Non,
qui
non.
Avait pris, qui
alors
avait
Elton, il a chanté à sa fête et il a fredonné.
Non mais sur le tapis rouge, qui avait chanté Paul McCartney
Bono, non ? Il n'y a pas eu Bono ?
Ah, c'était peut-être Bono, ouais. Un petit live de week-end demain, ce serait classe.
Bah, normalement, on va à la soirée. Donc à la soirée, j'espère bien quand même qu'il va nous pousser la chansonnette.
Non, mais là, je parle de ce que tous les gens vont voir. Nous, la soirée, ce sera autre chose. Ça, c'est privé. Ouais, on va tout filmer. The Idol, tu as raison de le dire. Donc le créateur de Euphoria, Lily Rose Depp, qui quand même... continue de monter à Hollywood, quoi. Elle a de plus en plus de rôles, des rôles de plus en plus importants. Nous, je me souviens, tu te souviens, on l'avait rencontré il y a quelques années dans un film français, la danseuse, je crois, c'est ça ?
Oui, exactement. C'était la première fois qu'elle montait les marches à Cannes. Alors, on l'avait fait, elle était quand même assez timide, assez sur la réserve, et c'est assez surprenant de la découvrir là, dans cette production, parce qu'elle a l'air d'y aller, d'écorner son image. Elle joue une pop star très dénudée qui joue de son corps et qui dit clairement que bah pour percer il faut se mouiller. Voilà, donc ça a l'air d'être une série qui veut égratigner le star system, donc c'est intéressant en plus que ça vienne de The Weeknd.
Ça a l'air assez trash effectivement. Juste, est-ce qu'on sait maintenant ces deux épisodes qui vont être présentés demain, c'est ça?
Ouais, exactement, deux épisodes. Souvent ils font ça pour un petit peu justement teaser, donner l'envie de qu'on découvre la suite.
Je fais juste une parenthèse parce que c'est effectivement les membres du jury qui sont en train de fumer une cigarette. On ne peut pas vous le montrer, mais alors vraiment juste là, Denis Ménochet, Julia Ducournau et Ruben Östlund, le président du jury. Voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse.
Tu les as vendus comme fumeurs, c'est bien.
Oui, ils sont en train de cloper. Bah écoute, ils ont le droit de cloper quand même, ils bossent comme des fous. The Idol demain, Lily Rose Depp, The Weeknd, autre chose de prévu un petit peu sympa, on sait ou pas il y a...
Demain, bah, y a le Coris Maki qui entre en compétition. Et puis, normalement, on rencontre l'équipe du Wes Anderson.
Ah ouais, ça va être sympa. Scarlett Johansson, non. Bill Murray. Ah bah attends, bah, ça sert à rien, alors on va pas les voir. On rencontre qui ?
Alors écoute, on rencontre. Mince, tu me colles là. On a qui en interview ?
Ouais, la colle. Bon, bah tu vas aller réviser. En même temps, il y a à peu près 52 acteurs dans ce film, donc forcément, c'est difficile de s'en souvenir. Voilà, c'est le programme de demain, The Idol. On a hâte d'y être. On est bon, je crois. On est pas mal. On a passé une bonne journée quand même là.
Bah, bonne journée. Enfin, moi, en tout cas, j'étais pas mal. Hein. Toi, je sais pas, mais moi, j'étais en bonne compagnie. Voilà, je finis en bonne compagnie. Donc écoute, tout roule. Hein.
Tu parles de moi, tu finis en bonne compagnie ?
Tout à fait.
Eh ben ça, c'est sympa. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On espère que vous avez passé un bon moment. Et puis, on se retrouve demain à la même heure pour parler de l'actualité cannoise.